Un grand merci, Muriel, pour cette première aussi concise qu'efficace. J'espère que je ferai autant. Je serai en tout cas concis. Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Nous lirons jusqu'au verset 20. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples au dire des gens. « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jusqu'ici notre lecture. Qui dites-vous que je suis? Demanda Jésus à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Nous demande le Seigneur à chacun d'entre nous ce matin. Pour certains, Jésus est un homme sage, est un éthicien qui a dit de bonnes choses, des choses sensées. Pour d'autres, il va encore plus loin, pour d'autres encore, ils disent Jésus est plus qu'un bon éthicien, il est prophète. C'est le cas des gens au temps de Jésus d'ailleurs. Certains disent qu'il est Jean-Baptiste, d'autres encore Élie, ou encore Jérémie, l'un des prophètes, etc. C'est aussi le cas de la femme samaritaine, si vous vous rappelez, dans sa discussion avec le Seigneur Jésus. Très rapidement, elle a reconnu en Jésus le prophète. Et bien entendu, des siècles après, nos amis musulmans continuent à voir en Jésus-Christ le prophète. Et pour vous, qui est Jésus? Est-ce juste un bon éthicien, philosophe, un prophète ou bien plus? Qui dites-vous que je suis? Telle est la question que tous les êtres humains doivent se poser. Telle est la question qui est posée à chacun et en tout le temps. Cette question fait partie de ces questions fondamentales, importantes, existentielles, auxquelles il faut répondre à un moment ou un autre dans sa vie. Elle fait partie de ces questions auxquelles il faut répondre pour ne pas rater sa vie sur ce plan. Il nous faut donc prendre le temps de réfléchir qui est Jésus pour nous. J'aimerais vous proposer à l'avenir quelques messages sur l'identité de notre Seigneur Jésus, qui vont porter sur l'identité du Seigneur. Mais si vous voulez aller plus loin sur cette question, j'aimerais vous recommander deux livres qui sont des références. Un de notre frère Henri Blocher sur la doctrine du Christ, qui est édité par les éditions de la faculté de Vaux-sur-Seine. Et si vous êtes intéressé, je vous procurerai un exemplaire sans difficulté. Ou encore un autre ouvrage de John Stott sur la croix de Jésus-Christ, qui est aussi un ouvrage vibrant, qui dit quelque chose de profond sur notre Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais évoquer avec vous Jésus le Christ, Jésus le Messie. Pierre déclare clairement au verset 16, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Le nom du Christ vient de Christos en grec, qui est une traduction du mot de l'Ancien Testament qui veut dire « Messie », Mashiach, qui veut dire « Messie », c'est-à-dire une personne ointe. Il y a trois catégories dans l'Ancien Testament qui reçoivent de l'onction en vue de servir le Seigneur au sein de son peuple. Vous avez les prêtres, les prophètes ou encore les rois. Qui est donc ce Messie à venir annoncé dans l'Ancien Testament et qui s'est présenté en la personne de Jésus-Christ. Le Messie annoncé dans l'Ancien Testament décrit comme le nouveau Moïse, donc un nouveau prophète. Il est décrit aussi comme le nouveau Aaron, c'est-à-dire le nouveau sacrificateur, ou encore le nouveau David, c'est-à-dire un nouveau roi. Le Messie qui viendra sera donc le nouveau Moïse. Le Seigneur annonce dans le livre de Deutéronome qu'il allait susciter un prophète comme Moïse. Il dit à son sujet, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » C'est dans Deutéronome 18:18, c'est facile à retenir. Il sera donc un prophète fidèle à la parole du Seigneur dans la mesure où il ne dira pas autre chose que ce que le Seigneur lui demandera de dire. Isaïe poursuit en décrivant ce prophète, en le décrivant comme un personnage qui a la langue du disciple, c'est-à-dire la langue de celui qui répète fidèlement, sans faillir, sans prendre aucun écart, la parole qu'il a reçue de son Seigneur. C'est Isaïe 50, c'est le troisième chant du serviteur. Le Messie à venir sera donc fidèle à la parole de Dieu comme l'a été Moïse, mais il le sera d'une manière plus parfaite. Le Messie annoncé dans l'Ancien Testament sera aussi un sacrificateur. Il n'est pas dit de cette manière, d'une manière explicite dans l'Ancien Testament, mais nous ne pouvons que déduire de toutes les données que nous avons de l'Ancien Testament que le nouveau Messie sera aussi un sacrificateur. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre est appelé prêtre oint, et on retrouve le terme de Messie, prêtre-messie, qui est employé pour le grand prêtre. Le prêtre est là pour offrir des sacrifices en vue d'obtenir le pardon des péchés pour le peuple ou aussi pour la personne coupable. Chaque année, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, le grand prêtre, justement, devait offrir un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés du peuple, mais aussi le pardon de ses propres péchés. C'est dans Exode 28. Le Messie à venir sera donc aussi celui qui obtiendra le pardon des péchés du peuple. Et Isaïe va encore plus loin dans la description de ce Messie prêtre à venir, en indiquant que le serviteur de Seigneur qui sera le sacrificateur et en même temps le sacrifice. Il sera le sacrificateur qui va s'offrir en sacrifice pour obtenir le pardon des péchés de nombreuses personnes. C'est Isaïe 53, le dernier, quatrième et dernier chant du serviteur. L'expression « porter des péchés » qui est employée pour le grand prêtre dans Exode 28 au verset 38 trouve son accomplissement total dans le serviteur que Isaïe nous décrit en Isaïe 53, qui va offrir, qui est le sacrificateur, mais en même temps celui qui s'offre en sacrifice pour obtenir le pardon des péchés de son peuple. Enfin, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament sera aussi un roi, un descendant de David. Et c'est ce que le prophète Nathan a annoncé à David lorsque David voulait construire un temple, une maison pour le Seigneur. Et le Seigneur lui annonce que ce n'est pas David qui allait lui construire une maison, mais, c'est-à-dire un temple, mais c'est lui qui allait lui donner une maison, c'est-à-dire une descendance. Et en hébreu, c'est exactement le même terme. Le prophète Nathan annonce à David que le Seigneur lui donnera une descendance, un fils qui régnera pour toujours sur le trône. L'annonce du prophète Nathan dans cet oracle concerne bien entendu, dans un premier temps, le successeur de David, son fils, c'est-à-dire Salomon. Mais par la suite, c'est Salomon qui va construire d'ailleurs le temple, mais cette annonce va bien au-delà de Salomon, va bien au-delà du premier successeur de David. Elle évoque un descendant qui régnera pour toujours au verset 16 de 2 Samuel chapitre 7. Il sera, dit encore Isaïe, un rameau du tronc de Jessé. Le rejetant de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de vaillance, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe chapitre 11. Le roi à venir, qu'annonce le prophète Isaïe ici, sera d'une part le fils de Jessé, et Jessé c'est le père de David, une manière de dire qu'il sera l'un des descendants de David, et d'autre part, oint par l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il sera le Messie de Dieu, celui qui est oint par le Seigneur. Donc, en conclusion, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament est à la fois prophète, sacrificateur, roi, prophète oint, Messie, prophète Messie, sacrificateur Messie et roi Messie. Dès les premières pages du Nouveau Testament, Matthieu nous présente Jésus comme étant celui annoncé par les prophètes et celui qui est venu accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. C'est lui qui est là pour réaliser le projet de Dieu. Dans les quatre premiers chapitres de son évangile, Matthieu indique explicitement que les événements rencontrés par Jésus ne sont que l'accomplissement des prophéties bien précises de l'Ancien Testament qui sont données. Il suffit de regarder ces quatre premiers chapitres pour vous rendre compte. À chaque fois, ils mettent d'ailleurs en italique dans les Bibles pour dire que c'est une reprise de l'Ancien Testament. Le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire Jean-Baptiste, annonce clairement que Jésus, comme étant celui qui vient, voici celui qui vient des Jean-Baptiste. Et il dit attendre, même au moment de doute, lorsqu'il se pose des questions, il dit attendre la manifestation de la mission messianique de Jésus-Christ. À la femme samaritaine, Jésus dit très clairement, je suis le Messie, moi qui te parle dans Jean 15. Jésus est le Messie qui a accompli parfaitement les prophètes annoncés, ce que les prophètes ont annoncé à son sujet. Jésus est présenté donc dans le Nouveau Testament comme étant le nouveau Moïse, le prophète par excellence, le nouveau prêtre, le grand prêtre qui donnera sa vie pour le pardon des péchés, et puis le nouveau David, le roi qui régnera pour toujours et d'une manière parfaite. Au début de son ministère, Jésus reprend le message du prophète Isaïe pour l'appliquer à lui-même en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Et à la fin de cette reprise du prophète Isaïe, il dit au verset 21 du chapitre 4 de Luc « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est-à-dire, il n'y a que le Messie qui pouvait dire cela. Et Jésus se l'applique à lui-même. De cette manière, Jésus se présente sans aucune ambiguïté comme le Messie promis, celui qui vient pour annoncer la parole de Dieu. Et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, il dit clairement qu'il est là pour annoncer la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné, dit Jésus dans Jean 8. Ou encore, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon Père, toujours Jean chapitre 8. Dans ce sens, Jésus est le prophète par excellence, celui annoncé par les prophètes Isaïe, par les prophètes de l'Ancien Testament. Il a la langue du disciple, celui qui répète fidèlement la parole de son Père. Jésus est le nouveau Moïse, le prophète par excellence, venu annoncer la parole de Dieu fidèlement. Plus encore, Jésus est lui-même la parole de Dieu faite chair, venue parmi nous. Il est le Verbe de Dieu, comme le décrit l'apôtre Jean dans son évangile. Et en cela, Jésus est plus qu'un prophète, puisque non seulement il est le prophète qui apporte le message de Dieu, mais il est lui-même le message de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Il est lui-même le mot, le dernier mot que Dieu a laissé à l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Jésus est la parole de Dieu pour l'humanité. Il est le message de Dieu pour nous. Il est le porteur de ce message. Il est ce prophète promis par excellence. En plus d'être prophète, Jésus est aussi sacrificateur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente justement Jésus comme le grand prêtre céleste venu offrir un sacrifice une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Il est ce grand sacrificateur venu pour être le sacrifice car lui seul répond, son sacrifice seul répond à l'exigence et de la sainteté et de la justice de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait une comparaison entre le sacrifice de Jésus et celui des animaux dans l'Ancien Testament, et il écrit au chapitre 13, « Le sang des animaux offert en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort hors de la ville pour purifier le peuple de par son propre sang. » Hébreux, chapitre 13, versets 11 et 12. Contrairement à ces bêtes, Jésus fut crucifié une fois pour toutes, sacrifié une fois pour toutes, et pour tous ceux qui vont, tous ceux qui allaient croire, placer leur confiance en lui. Le sacrifice de Jésus est définitif et unique. Définitif parce qu'il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Le sacrifice par excellence a été offert par Jésus-Christ et en Jésus-Christ pour nous. Il est unique parce que ce sacrifice répond à l'exigence de la sainteté de Dieu. La supériorité de la prêtrise de Jésus-Christ, de Jésus comme prêtre, est démontrée encore à plusieurs reprises et d'une belle manière par l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui place Jésus sous la lignée de Melchizedek. Dans Hébreux, qui est évoqué dans Genèse 14 et repris par le psaume 110. Jésus est celui donc qui a offert le sacrifice suffisant pour le pardon des péchés, de sorte que nous n'ayons plus besoin d'offrir aucun autre sacrifice, car le sacrifice que Dieu attend a déjà été offert pour nous, le sacrifice qui répond à l'exigence de la sainteté, de la justice de Dieu, a été déjà offert. En plus d'être sacrificateur, prophète, Jésus est aussi roi. Il est appelé le roi d'Israël par Nathanaël dès le début de l'évangile. Et à plusieurs reprises, Jésus n'a cessé d'être appelé fils de David, aie pitié de moi, notamment par les gens qui demandent de recevoir la guérison ou de recevoir son soutien. Le fils de David est justement ce titre qui est donné pour le descendant de David, pour le roi messianique qui allait venir. Jésus parle à ses disciples de son royaume et il dit à Pierre dans le texte que nous avons lu qu'il a les clés de son royaume et Jésus dit posséder son royaume et qu'il va donner les clés et qu'il règne sur son royaume et qu'il possède le royaume que le Père lui a donné. Matthieu cite la prophétie de Zacharie lorsque Jésus entre à Jérusalem le dimanche des Rameaux en disant: dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un anneau, le petit d'une bête de somme. Voici ton roi. L'écriteau sur la croix, au-dessus de la tête de Jésus, porte justement cette inscription: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et les épîtres ne cessent de rappeler que Jésus-Christ est roi. Et cela à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse appelle Jésus roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus est donc ce roi que Dieu avait annoncé à David, que Dieu avait promis, ce roi qui allait venir sauver son peuple. Ainsi donc, Jésus accomplit les trois fonctions qui étaient assurées dans l'Ancien Testament par des personnes ointes pour des services particuliers. Jésus les a rassemblées toutes en lui, prophète, sacrificateur, roi. Jésus est à la fois prophète, sacrificateur et roi, et il est le seul à rassembler de telles fonctions. Ces trois ministères, ou ce qu'on appelle aussi les offices, peuvent être discernés dans la présentation que Jésus se fit de lui-même. Dans l'Apocalypse chapitre 1, lorsqu'il se présente, il dit: c'est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. C'est Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et dans ce verset, on peut très facilement attribuer l'expression témoin fidèle au ministère prophétique de Jésus, un ministère fidèle à la parole de Dieu, l'expression souverain des rois au ministère royal de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et puis l'expression « celui qui nous a délivrés de nos péchés » au ministère de sacrificateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela conduit donc à dire Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Qu'est-ce que cela change pour nous de savoir que Jésus est le Messie qui est à la fois roi, prophète, sacrificateur et roi. Jésus est notre prophète dans la mesure où il nous annonce la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la parole que le Seigneur Jésus nous laisse, n'est pas simplement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, dans la mesure où aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament nous apporte la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous ouvrons la Bible, nous entendons notre Seigneur nous parler, nous entendons notre Seigneur nous dire la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, le Seigneur nous délivre de notre aveuglement spirituel pour voir et pour vivre à sa lumière, comme le dit le psalmiste. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par la parole, le Seigneur renouvelle notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, agréable, parfait de la volonté de Dieu pour nous. Par la parole, le Seigneur nous sanctifie, nous forme, nous forge pour lui ressembler au quotidien. Jésus est notre sacrificateur. Jésus est notre sacrificateur. C'est lui qui nous permet de nous approcher comme nous le faisons dimanche après dimanche, et j'espère jour après jour sur le plan plus personnel, de nous approcher librement de notre Dieu sans être consumés par le feu de sa sainteté ou de sa justice. Nul ne peut voir le Seigneur y vivre, et Jésus nous permet de nous approcher de Dieu en toute liberté. Il a offert son sang sur la croix pour nous pardonner, pour nous purifier de nos péchés. Et Jean dit que si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons, nous les confessons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous les pardonner. Et il affirme que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Aucun péché ne peut être plus grand que le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus répond à l'exigence de la justice et de la sainteté de Dieu, même face aux péchés les plus horribles qu'un être humain puisse commettre. Grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés de la condamnation et de la colère à venir. C'est grâce au sang de Jésus, grâce à son sacrifice, que nous pouvons nous approcher de lui librement et être au bénéfice de son pardon. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec assurance, avec l'apôtre Paul, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, qui ont demandé, obtenu le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Jésus est notre roi pour nous délivrer de la tyrannie du diable. Jésus est le roi glorieux, le vainqueur. C'est lui qui a livré en spectacle les forces du mal sur la croix, les puissances des ténèbres. Grâce à sa victoire, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés. En plus d'être sauvés, délivrés de notre péché, de notre condamnation, des ruses, des ténèbres de l'ennemi, en plus de cela, Jésus est roi, Seigneur des seigneurs, et il a la capacité de nous garder. De nous garder dans sa main pour toujours. Et c'est la raison pour laquelle il a promis que personne, rien, ne peut venir lui ravir une de ses brebis. Tout ce que le Père lui a donné, Jésus s'est engagé de les garder jusqu'au bout. Tout comme il a promis, rien ne pourra nous arracher à son amour. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans son épître romain, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les nations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer ou nous arracher à l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Notre Seigneur a la capacité, le pouvoir de nous garder, de nous protéger, de nous préserver pour toujours. Notre Seigneur est donc le prophète que Dieu nous a envoyé pour continuer à nous instruire dans la connaissance de notre Dieu, dans la parole de notre Dieu, Il est notre sacrificateur qui est toujours prêt à nous pardonner à chaque fois que nous nous tournons vers lui, à chaque fois que nous reconnaissons nos péchés et nous venons devant sa face en toute humilité. Il est aussi ce roi glorieux qui a tous les pouvoirs pour nous garder, nous préserver en vue de son règne éternel dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Jésus, que nous avons rencontré, confessé dans notre vie, n'est autre que ce Messie annoncé par les prophètes, reconnu par Pierre et que nous avons connu, que nous avons confessé, que nous connaissons et que nous confessons. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous n'avez pas encore fait cette expérience avec lui, il n'est jamais trop tard, du moins pour le moment, parce que personne ne peut vous dire de quoi les instants à venir seront faits. Il n'est jamais trop tard et nous serions très heureux de discuter avec vous, de poursuivre la discussion avec vous sur cette question si fondamentale pour ne pas rater, passer à côté de sa vie à mon sens. La question que j'aimerais maintenant nous laisser, alors que nous abordons cette période estivale, que ferions-nous de ce Messie rencontré? Que ferions-nous de ce Jésus que nous avons dans notre cœur et que nous connaissons? Allons-nous saisir, créer des occasions pour dire qui est vraiment Jésus, aider ceux qui nous entourent, eux aussi à leur tour de le rencontrer, de répondre à cette question, qui dites-vous que je suis? Comment allons-nous aider nos amis, nos voisins, nos contemporains, simplement toutes ces personnes que nous allons croiser sur le chemin de vacances? Comment allons-nous leur donner des éléments pour répondre à cette question si fondamentale? L'été est une belle période, est une bonne période pour se reposer, mais aussi est une très bonne occasion pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, pour aider à comprendre qui il est vraiment Jésus, pour aider à montrer que Jésus est unique dans toute l'histoire, et c'est la raison de l'humanité, et c'est la raison pour laquelle il est le seul à pouvoir nous dire la parole de Dieu parfaitement, nous laver de nos péchés et nous garder pour l'éternité avec Dieu. Le Seigneur nous fait une belle promesse, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin, nous dit le Seigneur Jésus. À nous maintenant de saisir toutes les occasions qui nous sont données, qui se présenteront à nous, pour pouvoir dire qu'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu vivant, comme l'a fait Pierre. Amen.